Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce matin. Oui, c'est réciproque. Ouf, là vous me soulagez. Hein. En fait, ça fait 2 mois que je n'ai pas prêché. Merci, monsieur le technicien. Voilà. C'est parfait, merci. Et c'est avec un peu de crainte et tremblement que je reprends le ministère, la parole. Et bon, la convalescence n'est pas terminée, donc il y a encore un sujet de prière là-dessus. Et merci de votre compréhension, patience, et merci à tous ceux qui s'impliquent dans l'Église et qui finalement servent le Seigneur. Et c'est ça l'Église, hein, personne n'est indispensable quelque part. Mais par contre, hein, le Seigneur, il est indispensable dans nos vies. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Prions s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous humilions devant toi, afin que ta grâce soit parmi nous, que ta parole soit prêchée avec puissance, autorité, parce qu'elle est une source de vie et parce qu'elle est une épée qui tranche, elle est un marteau qui brise le roc, elle est une lumière qui dirige et elle est, Seigneur, toute source de vérité, de lumière. Alors, nous sommes tellement privilégiés de pouvoir regarder ta parole et nous laisser enseigner. Aussi, nous nous humilions devant toi ce matin, afin que nos oreilles soient attentives, que ta grâce se manifeste et que le Seigneur Jésus-Christ soit vu, adoré, reconnu comme maître, Seigneur et dirigeant de toutes choses. Et ainsi, nous donnerons toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Cette semaine, j'ai reçu un email d'une jeune fille chrétienne très engagée dans le Seigneur qui m'a demandé de pouvoir communiquer avec elle et d'essayer de répondre à une de ses questions sur la vie chrétienne. Alors elle m'a dit, voilà, moi pendant longtemps, me suis confié en Dieu et j'ai vu des signes dans ma vie et le Seigneur m'a dirigé au travers de signes. Mais aujourd'hui, ayant mûri, je réalise que ma foi ne doit pas toujours rechercher des signes, mais il n'empêche pas moins qu'encore je vois des signes de la souveraineté de Dieu, des circonstances dirigé par Dieu, et ça m'est difficile de faire la part entre ce que je dois croire comme venant du Seigneur et ce qui peut-être pourrait venir de moi. Alors je réfléchissais un petit peu, on doit s'appeler et discuter ensemble. Alors je lui répondis, peut-être es-tu comme la plupart d'entre nous, je pense on a quelque part dans notre vie un jour cherché un signe de la part de Dieu. Et j'ai pensé à Gédéon, en Juges chapitre 6, et je lui dis, peut-être étais-tu comme parfois Gédéon qui a demandé des signes à l'Éternel, qui avait besoin de fortifier sa foi, d'assurer son ministère et l'appel que Dieu lui a donné. Et donc, je suis allé dans le chapitre 6 du livre des Juges, regarder les quelques versets qui parlent de signes, et puis je me suis dit, mais c'est vraiment intéressant, ça a suscité mon intérêt à nouveau et j'ai lu le chapitre 6 du livre des Juges. Et l'introduction au chapitre 6 m'a interpellé et je me suis dit, mais finalement, alors j'avais pensé à un message sur un mini résumé d'un séminaire que je prépare sur la multiplication des disciples ou reprendre l'étude aux Éphésiens. Et puis je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là, il me semble que le Seigneur veut nous donner et apporter autant dans ma vie que ce matin dans ce culte ensemble. Alors, nous allons regarder ensemble le livre des Juges, chapitre 6, versets 1 à 24. En fait, avant de regarder cela, de faire aussi une introduction sur Gédéon, dans le livre des Juges, rapidement, parce qu'on ne peut pas. C'est vrai que c'est mieux de suivre chronologiquement les chapitres les uns après les autres, mais rapidement, le temps des Juges est un temps de défaite. Autant le temps de Josué comme leader d'Israël fut un temps de victoire, victoire sur victoire, dirigé par Dieu. Et vous savez comment le Seigneur a détruit la ville de Jéricho, comment le Seigneur a accompli miracle après miracle, et comment le peuple d'Israël a conquis le pays de Canaan, qui est le pays promis de Dieu au peuple d'Israël. Il se trouve que, après Josué, la nouvelle génération, n'ayant pas été enseigné ou n'ayant pas expérimenté les miracles de Dieu, alors s'est détourné de Dieu, s'est éloigné de Dieu, et on entre dans le temps des juges où on voit finalement que par manque de foi, manque d'obéissance, et le fond du problème, c'est qu'il y a eu un manque de transmission des choses spirituelles d'une génération à l'autre. Et je dois dire que ma femme et moi, nous avons la crainte de Dieu et nous prions pour nos enfants depuis leur naissance, non seulement qu'ils soient sauvés, qu'ils servent le Seigneur, mais qu'une fois mariés, élèvent aussi à leur tour les enfants dans les voies de Dieu. Et qu'ils enseignent à leurs enfants la crainte de l'Éternel afin que ces enfants non seulement se tournent vers le Seigneur, le servent et qu'ils transmettent à leur tour le flambeau des choses spirituelles, du salut en Jésus-Christ, de la marche par la foi et de la vie avec Christ. Mais dans cette génération, les anciens ont omis de transmettre cela à leurs enfants. Et je dois dire que c'est une illustration terrible pour nous chrétiens même, de parents chrétiens qui ne transmettraient pas à leurs enfants tout le conseil de Dieu, qui eux-mêmes ensuite ne le transmettraient pas à leurs enfants, et qui finalement feraient une rupture de cette transmission extraordinaire et possible de l'évangile du salut en Jésus-Christ. Alors c'est un avertissement, le livre des juges, pour chacun de nous, et on voit que parce qu'ils ont désobéi, parce que le peuple s'est éloigné du conseil de Dieu par ignorance, par péché, par désobéissance, Dieu leur a envoyé des tribulations, des circonstances adverses et des ennemis qui au départ avaient été vaincus, qui reprennent un peu de force autour d'eux et qui finalement amènent souvent la détresse et la confusion dans le peuple et voire la servitude, alors que Dieu les avait sortis de la servitude d'Égypte, il les avait conduits au travers de Moïse et Josué de victoire en victoire, ils redeviennent, ils se placent à nouveau sous le joug d'ennemis, et le livre des juges commence en montrant combien les ennemis finalement d'Israël sont devenus des collaborateurs avec Israël par le mélange de mariage de fils, de filles. Ils ont donné leurs fils aux filles des Cananéens et les filles de Cananéens aux fils d'Israélites et vice-versa, vous avez compris. Et finalement, le peuple s'est étiolé dans sa foi et a perdu le courage et la conquête de ce qu'aurait dû être la continuité de l'esprit de victoire que pourtant Dieu leur avait donné au travers de Josué. Alors une fois décédé Josué, il y a eu quelques élans, on voit, encore de victoire, et puis avec le temps, un mélange avec ces peuplades qu'ils auraient dû exterminer ou chasser du pays promis, puisqu'il leur avait été donné. Évidemment, vous avez compris que c'est une illustration de la vie chrétienne et que nous avons des ennemis, et reconnaissons que lorsque nous mettons en oubli nos anciens péchés, ils peuvent reprendre le dessus dans nos vies, que nous-mêmes nous avons des ennemis, la chair, le monde et le diable, et que si nous ne veillons pas à rester proches de Dieu, eh bien ces ennemis peuvent reprendre le dessus dans nos vies et petit à petit nous éloigner de Dieu sans que même on s'en aperçoive, comme un coureur cycliste qui, après des efforts, avoir gravi un col, se laisserait aller et finalement, en descendant, ne pédale plus. Et puis, tôt ou tard, ben, il retrouve une côte, mais il n'est plus capable de la monter parce qu'il a perdu l'exercice de l'effort et, dans notre cas, du croyant, de se tenir proche de Dieu. Alors, le livre des juges est aussi une illustration de quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans un temps difficile d'Israël, où il n'y avait plus de prophètes 400 ans avant Jésus-Christ, du moins des prophètes qui ont écrit la parole, on s'arrête Zacharie, Malachie, eh bien Dieu a suscité un libérateur. Alors quel est ce libérateur? Hein? Coucou. C'est Jésus. Merci. Il y a quelqu'un d'éveillé ce matin. Alors, si je m'endors avant vous, faites-le-moi savoir quand même. Hein. D'accord. Tout le monde est un peu difficile ce matin, très difficile. Mais de se lever, d'aller à l'église. Hein. Bon, mais le Seigneur est là. Alors, Jésus-Christ est le libérateur. Et dans le temps des juges, Dieu a suscité des libérateurs qu'on appelait des juges. Alors, Israël, dans les 4 premiers chapitres, on voit qu'ils ont été asservis 8 ans. Après, ils ont eu 10 ans, 18 ans de servitude. Entre-temps, 40 ans de repos. Encore 80 ans de repos après 20 ans de servitude, et ainsi de suite. Ils vont finalement de détresse qui amène la rébellion, parce qu'ils sont rebelles, finalement, à cause de leur désobéissance, sont châtiés par Dieu. Il y a ce cycle-là. Finalement, ils se repentent, ils crient, et Dieu leur envoie un libérateur qui restaure le peuple pour un certain temps, parce qu'ils retombent dans les mêmes habitudes. Vous savez pourquoi ? Parce que le même défaut de ne pas transmettre la crainte de Dieu d'une première génération a été transmise dans le livre des juges de génération en génération. Donc cela doit nous éveiller, nous en tant que croyants, de transmettre à la nouvelle génération la crainte de Dieu et bien sûr son amour et sa paix et le salut en Jésus-Christ. On trouve cela notamment en Juges chapitre 2, et je vous le lis, versets 18 et 19, « Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, qu'on pourrait aussi traduire libérateur, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. L'ambition des parents chrétiens, c'est que leurs enfants les dépassent à tout point de vue, et surtout sur le plan spirituel. Mais dans leur cas, il y avait au contraire un éloignement de Dieu et une transmission tellement faible que de génération en génération, le cœur ne cessait de s'éloigner de Dieu et de s'endurcir. Mais Dieu, dans sa bonté, notamment, a suscité un juge qu'on connaît bien, n'est-ce pas, qui a donné le nom à une grande mission qui distribue des Bibles, Gédéon. Un homme simple, un fermier, on va regarder ça tout à l'heure en lisant le texte de façon suivie. Et on peut se poser la question, en regardant la vie d'un tel homme, qu'est-ce qui fait la grandeur d'un homme ? Vous savez, il y a des hommes politiques ou autres, ou des hommes d'affaires qui veulent le pouvoir, qui veulent être grands, qui donnent des noms à des projets afin qu'on se soucie de se mémoriser de ce qu'ils ont fait, de ne pas les oublier, comme si post-mortem, n'est-ce pas, la gloire de l'homme avait encore gloire. On sait que la destinée de l'homme, c'est le ciel ou l'enfer. Alors, qu'est-ce que la grandeur d'un homme ? Est-ce que c'est ses biens, son pouvoir, son prestige ? Pas toujours. Est-ce que cela dépend de la grandeur de sa naissance, de son héritage, de son intelligence, de sa beauté, son statut social ? Pas toujours. En fait, on peut dire que la grandeur d'un homme, surtout, se voit, se manifeste dans ses traits de caractère, ses croyances, ses valeurs, ses buts, ses valeurs, comme l'honnêteté, l'humilité, la miséricorde et compassion, le courage. Je ne sais pas si vous aimez lire un peu des livres au sujet de biographies d'hommes courageux comme Winston Churchill, qui a eu du courage, cet homme-là. Il a été, sa grandeur a été que c'est un homme capable de baisser les bras. Charles de Gaulle, pareil, sans faire de la politique, vous comprenez. Et récemment, mon fils a voulu regarder à nouveau le film Sauvons le soldat Ryan, c'est ça ? Voilà, j'ai regardé quelques extraits, un capitaine marié, professeur, finalement, donne sa vie pour sauver le soldat Ryan. Alors qu'il y a plein de gens qui sont morts pour sauver cet homme-là, qui après est reconnaissant. Il y a des circonstances qui font la grandeur des hommes. Et puis il y a des circonstances qui, au contraire, démontrent la petitesse de l'homme. En fait, souvent, ce sont des hommes et des femmes dans le domaine spirituel dévoués à la cause de la vérité, sans abuser de leur pouvoir et qui inspirent les autres. Alors Gédéon devient, au chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, un héros de la foi. Un héros de la foi dont on parle d'ailleurs, Hébreux chapitre 11, dans la liste des héros de la foi, il est mentionné comme celui qui était un homme de foi, un modèle de foi. En fait, Gédéon est un homme de foi parce qu'il croyait en Dieu, il avait la foi en la parole de Dieu et s'y soumettait. C'est bien de connaître la parole de Dieu, mais c'est mieux non seulement de la connaître, mais de la mettre en pratique. Et Dieu utilisa Gédéon. Et on va se retrouver peut-être dans ce qu'on va voir ce matin, Dieu voulant, sur la vie de Gédéon. Gédéon, un simple fermier. Ce n'était pas un soldat de métier, mais Dieu l'a appelé finalement pour vaincre toute une multitude et uniquement par la foi, l'obéissance, qui firent que Gédéon devint un homme d'une grande stature, un homme de grandeur, un homme de foi. Voilà, je crois que je vous ai dit un petit peu l'introduction que je voulais vous donner à ce message de ce matin. Alors, nous allons regarder, par la grâce de Dieu, Dieu notre libérateur. J'ai donné le titre à ce message pour les 24 premiers versets de la vie de Gédéon, en Juges chapitre 6, Dieu notre libérateur. Et je crois que j'ai ajouté aussi le plan libérateur de Dieu pour son peuple. Et vous allez pourquoi comprendre cela dans ce qu'on va voir. Alors nous allons commencer, sans plus tarder, à regarder le chapitre 6 du livre des Juges. Je vous invite à regarder avec moi. Et on va donc regarder par lecture cursive le texte de façon chronologique et faire un commentaire par rapport au plan que nous allons regarder ensemble. Alors peut-être que je vais vous donner le plan, il me semble que je l'ai noté ici. On va voir tout d'abord le contexte où se situe Israël. Ensuite, on va regarder la prière du peuple d'Israël. Et puis, on va regarder la réponse de Dieu à Israël. Alors, le contexte, la prière d'Israël et puis la réponse de Dieu. Lisons, si vous voulez bien, juste d'abord le premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Quand on commence à lire un texte comme cela, on se dit, qu'est-ce que Dieu est patient envers le peuple d'Israël? Et l'application est immédiate, qu'est-ce que Dieu est patient envers chacun de nous? Je trouve que Dieu est tellement patient envers moi. Et des fois, j'ai honte de ma vie devant Dieu. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es patient envers moi et fidèle. Et je me sens repris parce que Dieu est tellement patient envers chacun de nous. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel encore et encore. Et Dieu ne s'est pas lassé de continuer à aimer le peuple d'Israël. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pourquoi? Parce que quand on s'éloigne de Dieu, Dieu prend la verge de correction. On a déjà étudié ensemble Hébreux chapitre 12 où on voit que Dieu châtie ce qu'il aime, ses enfants. Et Dieu châtie le peuple, évidemment, dans le but de ramener le peuple envers Dieu, envers la vérité, envers son alliance, pour qu'ils jouissent de tous les bienfaits de ce que Dieu veut leur donner. Alors, ils ont perdu la vie spirituelle, le zèle pour le Seigneur, de génération en génération, encore dans le temps des juges, arrivé au temps de Gédéon. Le peuple d'Israël maintenant est sous la servitude à cause d'un peuple qui s'appelait les Madianites. Les Madianites, juste brièvement, sans s'étendre trop sur ce qu'ils sont ou de qui ils sont issus, en fait, vous vous souvenez, Abraham, peut-être, avait une femme qui s'appelait Kétura, et on voit en Genèse 25, verset 2, que de cette femme, il a eu 5 fils. Abraham était assez, producteur d'enfants. Et puis, il a eu 5 fils et qui sont devenus 5 familles, issues donc de Madian, l'ancêtre, fils issu de la seconde femme d'Abraham, Keturah. Donc, 5 petits-fils, excusez, de ce fils de Moïse, d'Abraham, allons, Madian. Et puis, il y avait les marchands madianites qui achetèrent Joseph et l'amenèrent en Égypte. Et puis, il y a le beau-père de Moïse qui était madianite. Et finalement, ils étaient associés aux Moabites et ils avaient un territoire à peu près du nord au sud étendu sur 280 kilomètres. En fait, ils étaient un peuple assez répandu du temps d'Israël. Et ils sont venus, suscités par Dieu, châtier comme instrument, châtier Israël qui s'éloignait. Alors, il y a un verset en 2 Pierre 9 qui dit « Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles et qui ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Le croyant doit être vigilant à ne pas laisser le péché ou peut-être ses mauvaises habitudes avant sa conversion reprendre le dessus pour finalement étioler son zèle, endurcir son cœur, s'éloigner de Dieu et finalement s'endurcir au point de ne plus voir Dieu. » Et puis finalement être châtié par Dieu. Donc ce matin, on va regarder un petit peu les conséquences du châtiment de Dieu, notamment dans la vie d'Israël. Reprenons la lecture à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, si vous voulez bien. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, ils ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux de leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Quand on a connu la gloire d'Israël sortir du pays d'Égypte, quand on a connu la gloire d'Israël dirigée par Moïse, la Shekinah, n'est-ce pas, qui était sur le dans le tabernacle qui montrait et dirigeait qui montrait la direction pour le peuple d'Israël comme étant la présence de Dieu, et les victoires de Josué, c'est dramatique ce qui est en train de vivre Israël. Et on peut faire parfois une relation avec ce qu'ils vivent aujourd'hui, même s'il y a une certaine prospérité aujourd'hui en Israël. Mais on voit désolation, terreur, paralysie dans la vie économique du pays, et donc Israël est amené à la pauvreté. Il faut dire que cela nous pose la question dans nos vies chrétiennes de savoir et d'analyser ce qui parfois nous arrive en tant qu'adversité. Alors, chacun sait. Nous n'avons pas à juger ce que peut-être est un châtiment chez l'autre. Il y a différentes sortes d'adversités, matérielles, physiques, spirituelles. Mais parfois, c'est les preuves de la vie qui testent notre foi. Et ça a pour but, positivement, de nous faire grandir. Mais parfois, le châtiment est dû à l'éloignement du croyant vers son Dieu. Et cette adversité est due à son éloignement, parce que quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, ben, il perd la joie du Seigneur. C'est déjà une épreuve hein, de vivre sans la joie du Seigneur quand on a connu la joie, la paix, la victoire sur le péché. C'est triste de s'éloigner de Dieu. C'est triste d'attrister le Saint-Esprit. Et alors, le croyant éloigné de Dieu, Dieu essaie de le ramener vers lui, et il devient pauvre spirituellement. Mais dans le but, chez le croyant, de créer une sécheresse spirituelle pour que le croyant revienne à son Dieu. Et en Juges 2, verset 15, il y a cette parole, n'est-ce pas ? Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, en parlant d'Israël, pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. Et vous savez que dans l'épître de Jacques, qu'on a étudié dans le groupe de maison, la Bible dit que si on aime le monde, on devient ennemi de Dieu. Et quand Dieu a pour ennemi ses enfants parce qu'ils s'éloignent de lui, ben il les juge. Et je pense à ce verset qui m'a toujours assez interpellé et craindre l'Éternel, tu sauras, dit la Bible en Jérémie, et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Mon épouse et moi, nous sommes en train de lire en ce moment le livre de Jérémie. On sait que c'est un livre long, les chapitres sont longs. Souvent, il est question des châtiments de Dieu et de l'éloignement d'Israël. Mais toujours la fidélité de Dieu qui désire que le peuple revienne vers Dieu pour être guéri, pour être restauré pleinement, retrouver la première place que Dieu veut lui donner. Alors, première application, vous avez compris, urgente dans nos vies, reconnaissons que parfois nous nous éloignons de Dieu. Des épreuves, les tests de la foi que nous n'endurons pas facilement, alors nous nous éloignons de Dieu et nous avons besoin de revenir vers Dieu. Et il y a un verset qui dit, si tu reviens vers Dieu, Dieu reviendra vers toi. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est une belle promesse, mais si dans nos cœurs, dans nos pensées, nous nous sommes éloignés de Dieu, ben reconnaissons que peut-être nous vivons des choses d'adversité qui vont disparaître lorsque nos cœurs vont être à nouveau blotti contre le cœur de Dieu, comme l'évangéliste Jean, qui aimait tellement son Seigneur et qui se blottissait sur son sein dans une intimité de vie. Alors, quand ça va mal, qu'est-ce qui se passe chez le croyant? Peut-être il ne peut pas analyser exactement les tenants aboutissants de son adversité. Il voit les symptômes de son éloignement. Il n'a même pas peut-être envie de prier, comme Spurgeon disait. Si vous avez envie de prier, ce serait péché de ne pas prier. Mais si vous n'avez pas envie de prier, ce serait péché de continuer dans cet état. Et parfois, c'est un besoin simplement de se tourner vers Dieu, sans émotion particulière, sans inspiration particulière, de retourner dans les Écritures et de confesser son éloignement à Dieu et de prier, non pas basé sur des sentiments, mais sur la fidélité de Dieu et de crier à Dieu, « Seigneur, je suis conscient de ce qu'il m'arrive, je ne comprends pas exactement, mais viens à mon secours, viens vers moi. » Et c'est ce qui est arrivé en Israël. Israël fut très malheureux, verset 6, à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, voilà, l'Éternel intervient. Tout commence par la prière. Qu'on ait besoin, qu'on ressente ou non, le besoin de prière, nous avons besoin de constamment prier et de faire confiance en Dieu qui nous garde. Et je pense à ce verset merveilleux qui dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Lorsque nous sommes au fond du puits ou de l'abîme et que nous crions vers Dieu, Dieu nous exauce parce qu'il est fidèle. Dieu est riche en miséricorde, Dieu est riche en bonté et nous pouvons toujours nous confier à lui. Alors, maintenant, nous allons regarder finalement, à partir du verset 7, la façon avec laquelle Dieu va répondre au cri de libération de son peuple. Comment Dieu s'y prend-il pour libérer son peuple? Et bien sûr, nous allons regarder, entre autres, comment il utilise Gédéon dans les quelques premiers versets du chapitre 6 où l'ange de l'Éternel rencontre Gédéon. Mais avant, il prépare le terrain de la parole. Et si vous lisez avec moi, au chapitre 7, jusqu'au verset 10, on voit que Dieu envoie un prophète. Verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Quand le peuple s'éloigne de Dieu, soulignons que c'est jamais le problème de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Quand nous nous éloignons de Dieu, c'est toujours notre faute quelque part. Mais Dieu est fidèle, et je pense que ce prophète dont le nom n'est pas mentionné prépare le terrain d'Israël et prépare le cœur de Gédéon, parce que ce prophète veut ramener les yeux du peuple d'Israël vers le grand libérateur. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, nos yeux sont plus fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, notre libérateur. Alors le prophète parle de la puissance de Dieu, c'est l'Éternel qui vous a sorti d'Égypte. Il parle de sa bonté, il parle de sa délivrance, il parle de la victoire et de la promesse du pays promis et des victoires qu'il a déjà données. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puis il reproche aux enfants d'Israël d'avoir été vers d'autres dieux. Dieu est un Dieu jaloux et la Bible dit qu'il jalouse l'esprit qui nous a été donné. Dieu nous donne des bénédictions, mais il est jaloux de la façon avec laquelle on utilise ces bénédictions. Et quand Dieu donne son esprit et quand Dieu donne des victoires, il s'attend à ce qu'on l'adore lui seul, qu'on n'ait pas des dieux dans nos vies, des dieux peut-être cachés, de l'idolâtrie cachée. Dans nos temps d'aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'idolâtrie. La politique, les affaires, l'argent, le sport, les stars de la chanson, etc., etc. C'est subtil comment l'idolâtrie peut se glisser dans le cœur du croyant. Mais ne faisons pas de l'idolâtrie si ce n'est d'aimer notre Dieu en esprit, en vérité. En 1 Samuel chapitre 15 et verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On peut même s'éloigner de Dieu en confondant religiosité et vie spirituelle, sans même se rendre compte. On peut avoir des habitudes de vie sans même être en communion avec Dieu. Mais le message du prophète ici, c'est de faire prendre conscience au peuple de leurs péchés et leur désobéissance, de les amener à la repentance, en leur rappelant la grandeur et la puissance de Dieu pour qu'ils se tournent vers le libérateur. Et ils ne sont pas prêts encore. C'est vrai qu'il y a un temps pour celui qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ de chercher Dieu. On appelle ça un peu une période pré-salut pour certains qui est plus ou moins longue jusqu'à ce qu'il y ait un abandon de notre résistance naturelle dans nos cœurs, notre propre volonté pour trouver le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur, afin de donner toute la place à Jésus-Christ, celui qui nous libère du péché, celui qui nous libère de la puissance de Satan. On voit encore la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu envers son peuple en envoyant maintenant l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament ? Hein ? Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est extraordinaire, on appelle ça une théophanie. Alors Abraham a été visité par trois hommes, vous vous souvenez ? Et même sa femme avait ri, Sarah, parce que l'homme lui avait dit, voilà, tu vas être enceinte. Et Sarah avait ri, moi qui suis si âgée, elle s'était moquée un petit peu. Et pourtant c'était Dieu qui était présent. Et puis Jacob a combattu l'ange de l'Éternel, un homme qui lui a déboîté la hanche justement pour le briser, pour qu'une fois brisé, il puisse être un vainqueur pour Dieu et plus humble. Et même Moïse a vu Dieu au sein de la flamme, n'est-ce pas, du buisson ardent. Ainsi, Dieu s'est présenté parmi les hommes en type, n'est-ce pas, de ce que Jésus allait venir sur la terre. Dieu fait homme. Déjà dans l'Ancien Testament, on appelle ça une théophanie. Dieu s'est manifesté parmi les hommes. Quelle fidélité ! Il envoie son prophète, malgré l'éloignement du peuple. Et maintenant, il envoie son fils Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, que l'on trouve à partir du verset 11. Et nous allons commencer à lire, si vous voulez bien, à partir du verset 11. Alors, on voit ici le plan sous les yeux. J'espère que l'envoi du prophète, on est à l'apparition de l'ange à l'Éternel, à Gédéon. Et on va regarder la réponse de Dieu. Et je pense que je vais vous donner tout d'abord, pourquoi pas, allez, toute la liste, comme ça vous allez savoir où on en est au fur et à mesure. D'accord ? Premièrement, Dieu apparaît à Gédéon, il envoie l'ange de l'Éternel. Il envoie l'ange de l'Éternel chez un homme, n'est-ce pas, dont le fils s'appelle Gédéon, un simple fermier, mais il le trouve à un endroit particulier en train de battre son froment au pressoir. Le pressoir est un instrument qui était utilisé pour presser le vin. quel est le rapport entre le blé ici, battez le froment, et le vin? C'est que tout simplement, Gédéon se cachait parce que les Madianites venaient et prenaient toutes les récoltes, et le peu qu'il avait sauvé, eh bien, il le battait au pressoir, caché, n'est-ce pas? Pas avec le bon instrument, parce que d'habitude, on battait pas le froment, on l'écrasait avec une meule, n'est-ce pas, tournée par un animal. Mais on voit Gédéon ici, qui était dans un lieu qui n'était pas le lieu approprié pour faire son travail. Et on voit Gédéon en train de manquer de moyens. Et voyez, c'est le reflet d'un Israël appauvri à cause de son éloignement. Il n'a plus l'abondance de nourriture, il n'a plus les moyens même d'agir comme il faudrait. C'est un manque de prospérité, un manque de bénédiction, et pour nous, évidemment, ça symbolise les richesses spirituelles. Un simple fermier issu de la tribu de Manassé, dans un lieu, tenez-vous bien, qui était un lieu d'adoration de Baal, un dieu païen. Voyez-vous, ce qui est terrible, c'est que les familles entières s'étaient compromises avec l'adoration des Baals. Et finalement, eh bien, Gédéon, ici, n'était pas à la bonne place, n'avait pas les moyens qu'il fallait. Et dans cette faiblesse qui est la sienne, Gédéon va être visité par l'ange de l'Éternel. Reconnaissons que Dieu n'appelle pas toujours les plus riches, les plus forts, les plus intelligents de ce monde. Bien sûr qu'il est un libérateur, Gédéon, qui typifie Jésus-Christ, mais le grand libérateur, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui suscite, n'est-ce pas, la venue de l'ange de l'Éternel. Dieu a toujours désiré se manifester parmi les hommes. Quelqu'un a dit, l'homme a plutôt tendance à se faire Dieu, tandis que Dieu, lui, est venu se faire homme parmi les hommes. Et c'est ce qui arrive ici, l'ange de l'Éternel qui apparaît sous la forme d'un homme. Et alors, on voit tout d'abord que Dieu non seulement apparaît à Gédéon, et il commence un dialogue avec Gédéon. Et c'est très intéressant, à partir du verset 12 jusqu'au verset 24, de voir ce dialogue, et c'est ce que nous allons survoler ce matin. Tout d'abord, Dieu interpelle Gédéon, l'ange de l'Éternel est Dieu, et au verset 12, il lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant homme ». Je pense que Gédéon a été un petit peu secoué, parce que l'Éternel, où est-il dans ce temps de détresse? On se demande bien qu'est-ce qu'il fait, où il est, et c'était le cas de Gédéon. Et puis tout d'un coup, l'ange lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et là, il est surpris. Et voyez-vous, la vision avec laquelle Dieu voit des hommes et des femmes sont bien différentes de la nôtre. Dieu a plein d'espoir pour susciter des vocations envers parfois des gens faibles pour les rendre forts. Et je pense à Pierre. Tu es Simon et dorénavant ton nom sera Pierre. Dieu voit là où nous nous trouvons et Dieu voit là où nous pourrions être seulement par sa puissance et son appel. Alors Dieu interpelle Gédéon et l'appelle vaillant homme, vaillant homme. Alors Gédéon lui dit, verset 13, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères, miracles, prodiges, que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » La réaction de Gédéon, elle est très honnête. Elle dit « Voilà, mais Dieu, où est-il? Il nous a abandonnés, il voit les symptômes de l'éloignement de Dieu, mais il ne réalise pas la cause, il ne parle pas de la cause réellement de l'abandon de Dieu, qui est le déchâtiment de Dieu, qui est l'abandon de Dieu, le péché. Il ne voit pas clair comme il devrait voir, mais au moins, il voit les effets de l'éloignement, il est authentique, il ne manifeste pas une fausse humilité, il a des interrogations au sujet de Dieu, et peut-être on peut se retrouver dans ces interrogations-là. En tout cas, il réagit à l'interpellation de l'ange de l'Éternel. On continue au verset 14. « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors ici, on voit que Dieu appelle Gédéon. « Va et délivre, je t'envoie. » Mais Gédéon, par quelle force, par quel moyen démunis, combien démunis se sent-il? Comment peut-il partir et délivrer tout un peuple, n'est-ce pas, face à cette multitude des Madianites? Vous savez, l'ennemi nous paraît toujours trop grand pour notre foi. Et nous ne pouvons vaincre l'ennemi que si nous avons réellement foi en un Dieu qui est plus grand que l'ennemi. C'est vrai que Gédéon était faible. C'est vrai que Gédéon n'était pas un soldat aguerri, n'était pas formé pour partir à la guerre, un simple fermier, un homme humble. Mais Dieu l'a suscité, l'appelle et lui donne une nouvelle vocation. Un homme simple que Dieu va utiliser. Et je pensais à ce passage en parallèle en Corinthiens qui dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a établi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Alors ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour chacun de nous. C'est une bonne nouvelle. Si Dieu veut utiliser des gens faibles, je suis candidat. Des gens incapables, je suis candidat. Des gens pécheurs, je suis candidat. Mais gracié par l'amour de Dieu et pardonné. C'est ainsi que quand on est faible, on est fort, et que Dieu peut nous utiliser des rien que nous sommes afin de faire de nous une force qui va le glorifier pour qu'on apprenne à donner toute la gloire à Dieu seul. On continue au verset 16. L'Éternel lui dit, non seulement il visite Gédéon, il interpelle Gédéon, il appelle Gédéon, c'est merveilleux, l'appel de Dieu, c'est fort et puissant, et puis il lui fait une promesse. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Vous vous souvenez dans le peuple, dans la vie de Josué comme leader, ils sont partis battre Jéricho. Et qu'est-ce qui s'est passé? 7 jours, ils ont fait le tour de la ville. Le 7e jour, 7 fois, les murailles se sont écroulées. Et les archéologues disent que les murailles sont écroulées vers l'intérieur. Ils n'ont pas du tout affecté l'armée d'Israël qui était autour des murailles. C'est incroyable ce que Dieu a fait. Et c'est Dieu qui a donné la victoire en Israël. Et puis, ils ont parlé d'une petite ville qui s'appelait Haï. Et moi, je dis dans ma tête, aïe, aïe, aïe. Parce qu'ils sont partis tout confiants, imbus de la victoire quelque part. Ça s'appelle l'orgueil spirituel ou la suffisance de la victoire qu'ils avaient eue puissamment en Jéricho. C'était Dieu qui avait donné la victoire. Mais ils ont oublié de consulter Dieu pour voir comment combattre Haï. Ils avaient une stratégie pour vaincre Jéricho, mais ils sont partis dans leur propre force pour vaincre Haï. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Première défaite. Et ils ont crié, Seigneur, que nous as-tu fait sortir d'Égypte? Regarde, nous sommes défaits. Alors que c'était une toute petite ville, parce qu'ils n'avaient pas Dieu avec eux. Ils avaient oublié de mettre Dieu en premier. Et suite à des grandes victoires que Dieu peut donner dans la vie du croyant, nous devons nous être assez humbles pour croire que toujours la victoire appartient à l'Éternel. Et être assez humble pour être modeste et se confier pleinement en Dieu, qui est lui, et le vainqueur. Pour cela, nous devons être des vaincus. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Ne tombons pas dans la présomption pour combattre notre chair. Quelle lutte, hein ? Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je veux, dit l'apôtre Paul. Qui me délivrera de ce corps ? Ne soyons pas présomptueux pour combattre la chair. Ne soyons pas présomptueux pour combattre le monde, si ce n'est nous réfugier dans la parole de Dieu. Et ne soyons pas présomptueux pour combattre Satan, notre ennemi, qui est vrai, plus puissant que nous. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Notre foi est en Dieu. C'est l'appel, l'interpellation, sa présence qui fait que oui, je suis avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Oui, va avec la force que tu as. On chante ça, n'est-ce pas, quand on va évangéliser. Celle de Christ, pas la nôtre. Parce que Christ en nous, nous avons tout pleinement en lui. Gloire à son nom. Je serai avec toi et tu battras Madian. Alors Gédéon, là, il est confus. Dieu se présente à lui. Il ne sait pas que c'est Dieu encore. Hein. J'ai oublié de dire cela. L'ange de l'Éternel. Un homme. Il ne sait pas sous la forme, il sait pas que c'est Dieu qui lui parle. Pourtant, il dit, l'Éternel sera avec toi. Lui dit, je serai avec toi, tu battras Madian. Il est comme un peu confus, abasourdi. Mais c'est Dieu qui lui parle, mais il ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à savoir ce que Dieu nous dit, parce qu'on n'étudie pas assez cette parole, n'est-ce pas? Alors Gédéon lui dit, quelle est sa réaction? Dialogue encore, Dieu parle, Gédéon réagit, Dieu parle, Gédéon réagit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Dieu a-t-il réellement dit? Reconnaissons que le doute, n'est-ce pas, est terrible dans nos vies. Quand le doute s'installe par rapport à telle ou telle chose, c'est une brèche dans laquelle Satan va de suite entrer. Parce que Dieu veut qu'on ait la foi. Et des fois, le doute s'installe et dans le doute, l'affaiblissement s'installe. Alors, pour fortifier sa foi, montre-moi que tu es Dieu. Attention, hein. Montre-moi que c'est toi qui me parles. Si j'ai trouvé grâce, alors je pense qu'il est sincère, mais sa foi est faible. Mais on peut tellement s'identifier à Gédéon, n'est-ce pas? Parce qu'aussi, notre foi est faible. Alors, il lui dit, ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il ne sait pas encore que c'est l'Éternel. Alors, il montre de la générosité, parce qu'au verset 19, il est écrit, Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Dans un temps de farine, il prépare à son hôte, son visiteur. C'est vrai qu'en Orient, la visite était très honorée, l'hospitalité très importante. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Il présente tout ce qu'il peut avoir dans un temps de famine. Certainement, il n'avait pas tout un troupeau et énormément de quoi faire du pain. Mais il amène tout cela par générosité. Il commence à être certainement touché. En tout cas, c'est un homme généreux qui commence à se donner à ce qu'on lui présente et à répondre à l'appel de Dieu, l'interpellation de Dieu, à la vocation de Dieu, même s'il ne comprend pas bien. Et il demande un signe. Alors, est-ce que le signe, c'est qu'il demande de ne pas s'éloigner, de rester? On voit plus tard qu'il demande plusieurs signes pour l'assurance qu'il va vaincre les ennemis. Et alors, ça fait réfléchir sur l'idée de demander des signes. Et vous savez pourquoi j'ai choisi ce texte ce matin un petit peu vis-à-vis de cette préoccupation, cette question qu'a cette jeune fille dans sa marche avec le Seigneur. Alors, j'ai trouvé qu'il y a 7 fonctions du signe. Et le signe, c'est synonyme de prodige et de miracle dans la Bible. Maintenant, on doit veiller, lorsqu'on demande un signe, de ne pas provoquer Dieu. Donc Dieu est miséricordieux, il sait qu'on peut se tromper dans notre marche de la foi. Mais établissons ce que dit Dieu au sujet des signes dans la Bible. Regardons ce pourquoi Dieu donne un signe et fait un miracle. Premièrement, pour amener à la connaissance de Dieu. Dieu a fait des miracles pour que Dieu se révèle, pour protéger le peuple de Dieu, comme Exode 12, faire naître la foi ou l'augmenter, rappeler les délivrances du passé, par conséquent renforcer la foi du peuple d'Israël, notamment, servir de signe comme alliance de Dieu envers son peuple, l'arc-en-ciel comme le signe de l'alliance avec l'humanité, la circoncision, le signe d'alliance avec Abraham, le Shabbat, le sabbat, le jour du sabbat comme le symbole de l'alliance mosaïque, de la loi mosaïque, etc. Un signe peut servir d'avertissement au peuple. Vous savez qu'il y avait des gens qui se révoltaient, qui disaient « On a la même puissance, nous, qu'Aaron !» Alors, Moïse a trouvé bon de dire aux gens « Amenez vos bâtons, chacun. » Et on va faire un concours. Quel est le bâton qui va fleurir? Ça va être un signe que c'est celui-là qui a vraiment qui est le souverain sacrificateur. Et vous savez que c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri. Et les autres, ils ont dû s'humilier et reconnaître l'autorité que Dieu avait donnée, l'autorité spirituelle que Dieu avait donnée à Aaron. Alors, les signes viennent confirmer un message divin. Souvent, les prophètes sont eux-mêmes des signes de la part de l'Éternel, ainsi de suite. Donc, reconnaissons qu'un signe, c'est quelque chose de très spécial que Dieu peut accorder ou non, et c'est toujours un miracle de Dieu. Donc, le croyant doit veiller à ne pas toujours demander, vivre par des signes. Il y a un signe aussi extraordinaire, j'ai oublié de le mentionner, Ézéchias, vous savez, qui pourchassait toute une armée. Et Dieu lui donne un signe. Le soleil a reculé sur les marches de 10 degrés. C'est incroyable cela. Mais ça, c'est Dieu qui a décidé de donner ce signe. Alors, nous ne devons pas vivre par des signes. Seigneur, montre-moi un signe qu'aujourd'hui je dois porter une cravate. D'ailleurs, je pense que personne n'a demandé ça ce matin et je ne vois personne en cravate. Seigneur, donne-moi un signe que je dois acheter une Alfa Romeo ou une Porsche. Donne-moi un signe. On peut demander au Seigneur de diriger nos vies, mais ne vivons pas, c'est la caricature, n'est-ce pas, de l'infantilisme. Ne vivons pas dans le mysticisme où à chaque chose, on doit demander à Dieu un signe ou une émotion ou une circonstance. C'est vrai que Dieu est souverain dans les circonstances. Alors, le sujet de ce matin n'est pas de parler et développer des signes, mais j'aimerais juste dire que Jésus s'est méfié à un moment donné de la foi qui repose sur des signes. Il a reproché à ceux avec qui il vivait, vous désirez un signe. Je vous donnerai qu'un signe, celui de Jonas. Même Jésus a mis en garde que la foi ne se repose pas sur des signes. Nous ne pouvons pas contrôler Dieu et le temps avec lequel il peut donner des miracles ou faire des miracles. Bon, excusez, je fais une petite anecdote personnelle. Vous savez, je vous ai confessé dimanche dernier que j'avais demandé au Seigneur de me guérir et Dieu ne l'a pas fait. Et j'en ai voulu au Seigneur. Je dis, pourquoi Seigneur? Moi, j'aurais aimé être guéri. Alors, il m'a guéri d'une autre façon. Mais j'aurais aimé tellement qu'il me guérisse directement. C'est plus glorieux pour lui, non? C'est plus glorieux de dire, voilà, j'ai été guéri par Dieu. Imaginez, quel témoignage. Mais non, Dieu m'apprend la patience jour après jour. Une convalescence, pas toujours facile. Et Dieu veut m'apprendre la patience. Dieu veut m'apprendre à demeurer en lui, là où je me trouve, même si je ne peux pas faire tout ce que je voudrais faire. Parce que la foi essentielle, c'est de se reposer dans une personne, pas dans ce que l'on fait, mais dans la présence de Christ. Même si c'est une école un peu exigeante et difficile, mais comme Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Alors vivons de cette confiance en Dieu sans avoir particulièrement de signes. En tout cas, on verra que Dieu est miséricordieux envers Gédéon pour un peu fortifier sa foi. Il lui accorda des signes plus tard. Et puis, verset 20, l'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Il fit ainsi. Un peu tout ce qu'il avait, je dirais, Gédéon, là. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité, verset 21, du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. L'ange de l'Éternel a fait un drôle de coup à Gédéon quand même. Il a mis, je ne sais pas combien de temps, enfin, à prêter un chevreau, préparer du pain. À mon avis, ça doit prendre un peu de temps. Je vois combien de temps ma femme passe dans la cuisine pour préparer un bon repas. Et elle est très patiente. Et Gédéon a mis du temps à préparer tout cela. Il amène tout cela. Et l'ange prend son bâton. En une fraction de seconde, il touche la chair, tout ce qu'avait Gédéon. Et ça se consume par le feu, qui vient du rocher en plus. Là, le feu est un peu trop fort. D'habitude, quand on fait la cuisine, on veille à ne pas trop chauffer le gaz, sinon le lait boue et se déverse. Et là, Gédéon, il perd contrôle complètement. Son bon repas qu'il a amené au pied, ce visiteur qui est vraiment plein d'autorité, il disparaît comme cela. Et là, tout d'un coup, il prend conscience qu'il est en face de quelqu'un qui est différent, qui a un pouvoir extraordinaire. Quelque part, c'est le premier signe que Dieu lui donne. Voilà qui je suis. Je suis l'Éternel. Je peux consumer un rocher et faire brûler ce bon repas que tu as préparé. Et là, Gédéon prend peur. Et je dois dire une chose. Quand Dieu intervient dans nos vies de façon exceptionnelle, nous apprenons la crainte de Dieu. Même quand Dieu manifeste un amour si profond dans nos vies, alors que nous ne méritons rien, cela nous humilie tellement qu'on aime le Seigneur d'autant plus et qu'on le craint, parce que c'est un don de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer par soi-même. L'amour de Dieu, la paix de Dieu, la confiance en Dieu. Même si Dieu nous demande d'avoir la foi, certainement. En tout cas, je trouve que Dieu s'est révélé à Gédéon de façon très progressive. Il apparaît à Gédéon, il interpelle Gédéon, il le fait réfléchir, il appelle Gédéon, il lui donne une vocation, et maintenant il se révèle à Gédéon. Voilà qui je suis. Moi maintenant qui t'envoie, sache que je suis Dieu. Et quelle est la réaction de Gédéon ? Verset 22, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Il a compris l'ange de l'Éternel, il savait ce que était l'ange de l'Éternel. Il avait quand même une certaine culture spirituelle de la vie d'Israël dans le passé de la vie d'Israël. Et Gédéon craint de mourir. Il a une peur bleue de Dieu maintenant. Il lui demande un signe un peu lié à sa propre faiblesse. Et maintenant qu'il a une manifestation de Dieu miraculeuse, il tremble de tout son être, il peut, il a craint, même pour sa vie, il craint de mourir. Comment vais-je continuer de vivre, moi qui ai vu l'ange de l'Éternel face à face ? C'est vrai que les face à face avec Dieu nous transforment et nous amènent dans une dimension dans nos vies spirituelles différente de ce qu'elle qu'on a peut-être déjà vécue. Mais c'est seul Dieu qui peut le faire. Et je trouve merveilleux la façon avec laquelle, finalement, Dieu intervient dans la vie de Gédéon. Et l'Éternel lui dit encore ce dialogue extraordinaire, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Il y a des événements où on a vraiment la crainte. Crainte de Dieu ou la crainte. Et ce que Dieu veut, c'est nous apaiser. Dieu visite Gédéon. Dieu interpelle Gédéon, Dieu appelle Gédéon, suscite une vocation, Dieu fait une promesse à Gédéon, et maintenant Dieu apaise Gédéon. Quelle grâce et la bonté de Dieu, quelle pédagogie, n'est-ce pas ? Dieu savait tout cela à l'avance, ce qui est arrivé avec Gédéon. Je pense à ce que le Seigneur nous a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quand je le vis, dit Jean en Apocalypse, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Il fallait une telle révélation de Dieu à Gédéon pour susciter un réveil dans son cœur, qu'elle ait suscité un réveil sur tout le peuple d'Israël, afin de devenir un peuple de vainqueurs à nouveau. Alors quel est le défi que Dieu nous suscite en lisant cela ? Peuple de Dieu, lève-toi et sois vainqueur. Reviens vers ton Dieu. Dieu veut faire de nous un peuple de vainqueurs. D'ailleurs, en Apocalypse, souvent, il est écrit « À celui qui vaincra ». Et le verset en Zacharie dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel ». Ce n'est pas que Dieu s'est éloigné de nous, c'est que nous nous sommes éloignés de Dieu. Mais Dieu est fidèle pour entendre les cris de son peuple. Dieu est fidèle pour entendre nos cris. Il suscite un prophète. Et je crois que c'est toujours dans le retour vers Dieu, le retour à la parole de Dieu. Qui est Dieu ? Nous perdons parfois la vision de Dieu. Le monde veut nous égarer dans des pensées qui ne sont pas de Dieu. Alors retournons à la parole de Dieu, parce que Dieu veut nous parler par ses prophètes qui ont été inspirés par Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et puis, dans sa bonté, il apparaît à Gédéon pour libérer le peuple, se révéler pleinement à lui, lui accorder la paix. Dieu a suscité Jésus-Christ, qui est un Gédéon parfait pour nos vies. Et si nous nous tournons vers Jésus-Christ, le grand libérateur, nous allons être libérés de nos difficultés, de notre chair, parce que nous sommes morts en Christ à la croix, ressuscités avec lui, du monde, parce que nous sommes dans le monde, mais pas du monde, et de Satan, parce qu'il a été vaincu à la croix, sachant que Jésus-Christ lui seul peut nous donner la victoire. Alors si nous devons comprendre et appliquer ce texte, revenons à Dieu de tout notre cœur. Le réveil vient par Jésus-Christ et Dieu veut un peuple de vainqueurs réveillés parce que Dieu a suscité un libérateur pour nous, Jésus-Christ. Et si Dieu nous appelle à un ministère qui nous semble complètement en dessous de nos capacités, Regardons à Gédéon, un simple fermier, qui aimait Dieu, mais dont la foi était bien faible à cause d'une, il faut dire, d'un temps de recul, de plutôt sommeil spirituel, voire mort spirituelle. Dieu peut nous appeler à le servir. Ayons confiance en lui. Et même si nous allons apprendre à le craindre, l'Éternel dit, sachez que je suis Dieu. Prions, s'il vous plaît.